9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et Philippe, on accueille le directeur du Point, Étienne Jernel.
Bonjour Étienne Jernel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Point, Céline Lady, qui est désormais l'hebdomadaire d'information le plus vendu en France. Plus de 11,4 millions de lecteurs mensuels. Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer en parlant de presse écrite, enfin pas tout de suite, mais de podcast, car le Point propose une nouvelle offre audio de 8 podcasts inédits, des créations originales. Avant qu'on les détaille, pourquoi ce choix du podcast ?
Mais écoutez, Claude Imbert, le fondateur du Point, disait toujours « le patron, c'est le lecteur ». Le lecteur, aussi, parfois, il l'écoute. Donc il se promène, il prend le métro, et donc on s'adapte, c'est normal. On ne doit faire de complexe sur rien. Et donc on a lancé tout un programme de podcasts. C'est passionnant, c'est très amusant à faire d'ailleurs. Et c'est toute la rédaction du Point qui s'y est mise avec l'aide de Tank Media, qui nous a aidés sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est bien.
Mais c'est pas les papiers du Point qui sont transformés en version podcast.
Non, c'est des programmes originaux.
C'est inédit, c'est natif, comme on dit.
C'est natif, c'est du journalisme, c'est-à-dire qu'on enquête, et les journalistes qui bossent, et puis après qui racontent, et ils racontent avec leur voix, et non pas avec leur stylo.
Qui bosse, qui raconte, qui s'amuse. Il y a d'abord Ciné Crash. Racontez l'idée de Ciné Crash.
C'est l'histoire des films qui se sont plantés au box-office, qui ont été des échecs spectaculaires et parfois ils méritent d'être réhabilités. Donc c'est Philippe Gage qui nous fait ça, qui est au Point Pop, qui est notre site de pop culture, et qui raconte ça, et c'est à pleurer de rire.
Alors on va entendre un extrait de la bande-annonce.
Showgirl, ça reste, pour les Razzie Awards, un des pires films de tous les temps. Alors, aux États-Unis.
C'est l'un des échecs commerciaux et critiques les plus retentissants dans la carrière de Paul Verhoeven.
C'est tellement choquant qu'il y a une réaction de rejet, mais d'une violence qu'on imagine même encore aux États-Unis maintenant.
C'est un grand film emblématique de ce Hollywood qui osait encore.
Ouais, qui est mort, qui est complètement mort.
Même sans mauvais jeu de mots, tout est à nu en fait. Il n'y a pas de.
Bravo, non, voilà, bravo.
Il fallait le faire, je pense.
C'est touchant.
C'est vrai que c'est amusant. Alors, c'est coupé, mais dans la longueur, c'est très très drôle. Il est très mauvais le film ou pas ? Ou est-ce que c'est le plaisir de s'essuyer les pieds sur un gars qui n'est pas là pour répondre ?
Oui, il y a de ça, mais en même temps, on réhabilite aussi les mauvais films. C'est ça qui est formidable.
Ouais.
C'est en disant, il y a toujours quelque chose à aller chercher, et puis c'est drôle, et puis c'est la vie. Voilà.
La fouille, par Clément Perrault, c'est quoi l'idée ?
Alors, Clément Perrault, il nous a fait quelque chose d'absolument formidable, c'est d'aller chercher dans les sacs, dans les poches de nos politiques. Et souvent, on dit que les journalistes font les poubelles, nous, on fait les poches.
Ouais.
Et il est allé regarder tout ça, et ça raconte un petit peu leur vie, ça raconte leur côté intime, et puis ça raconte beaucoup de choses sur eux, sur ce qu'ils sont, sur leurs habitudes de vie.
Alors, écoutez le premier Étienne Jernel, il ouvre le sac du député Bruno Bonnel, il y a une enveloppe d'argent liquide. Là on se dit, waouh, c'est croustillant. Pas du tout. C'est pour son fils, ça dépasse pas 150 euros. Je veux dire par là, est-ce que la promesse n'est pas trop belle ? Est-ce qu'un député va accepter qu'un journaliste fouille dans son sac ? Il prépare le sac avant.
J'espère qu'il faut un petit peu attention, mais je dis, il ne faut pas croire non plus que les politiques se baladent avec des enveloppes de cash, de corruption comme ça. On ne doit pas être dans le complotisme.
Non, je sais. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas un petit argument marketing ?
Évidemment, mais il y en a toujours. Il faut toujours aller chercher des choses qui intéressent les gens. Et puis ça raconte des choses de leur vie. Les politiques ne sont pas des gens extraordinaires. Ils sont des gens comme vous et moi. Et on peut avoir des tas de choses, y compris des choses embarrassantes. Par exemple, un préservatif ou je ne sais pas quoi.
Vous avez déjà trouvé ça ?
C'est le truc. Vous écoutez, vous verrez.
Alors, on peut pas tout écouter, il y en a tellement, il y en a beaucoup, beaucoup. Quelle production alors ? Il y en a combien ? Combien de podcasts allez-vous produire ? Pour combien de minutes, d'heures, d'antenne, si j'ose dire ?
On en produit pour cette saison, parce que ça marche par saison, une dizaine, et qui sont entre 6, 8 ou 10 épisodes. Donc ça fait des heures d'écoute. Ils sont de durée extrêmement variable, parce que ça dépend de l'intérêt du sujet et de la manière dont ça fonctionne. Voilà, et c'est que le début, parce qu'évidemment, on en lance d'autres. En fait, on est parti là, ça y est, on est parti dans un grand programme de podcasts.
Il y a un sujet qui me plaît beaucoup, ça s'appelle « Mon métier n'existe pas », c'est par Romain Gonzalez. Vous avez en tête les exemples de métiers qui n'existent pas, parce qu'en fait ils existent mais on croit qu'ils n'existent pas.
Bien sûr, les happiness managers, vous savez tous ce qu'on appelle les bullshit jobs, qui sont plus ou moins bullshit, ou parfois ce sont des vrais jobs.
Happiness manager, c'est un type qui est payé pour qu'on soit heureux.
Voilà. Mais c'est ça marche ou ça marche pas d'ailleurs.
Quand les gens sont malheureux, c'est qu'il est nul.
C'est qu'il est nul. Alors, on parle aussi d'écologie. Mathilde Gardin nous parle des entrepreneurs. C'est utile ça, qui ont réussi à faire la transition écologique. Voilà comment ça marche concrètement.
Ouais, et j'ai aussi appris grâce à vous qu'il y avait des consultants en management du changement. Je savais même pas que ce métier c'était ça, qu'on pouvait mettre ça sur sa fiche de paye. Et des data brokers.
Tout est possible.
C'est quoi un data broker ? Vous en avez au Point ?
Non.
Vous savez pas ce que c'est.
Je suis pas complètement certain, mais il doit y avoir de l'argent en jeu.
Tous ces podcasts sont gratuits. Ils sont disponibles sur votre site,
mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes.
Comment vous allez les monétiser ?
Écoutez, je ne sais pas.
C'est pas vrai.
Non.
Attendez, vous lancez un truc sans savoir comment vous allez le financer.
Écoutez, d'abord, ce sont des productions de la rédaction du Point, ouais. En général. Ça génère de l'audience, ça génère de l'intérêt, ça amène des gens chez nous. Et puis après, il peut y avoir de la monétisation publicitaire, il peut y avoir des choses comme ça. Mais le rôle d'un entrepreneur et un journal, c'est une entreprise, c'est d'investir, d'avoir des idées, d'intéresser les gens. Et comme on disait Claude Imbert, le patron, c'est le lecteur. Et puis, donc, notre boulot, c'est de nous mettre à son service.
Oui, mais il y a une différence. C'est qu'à l'époque de Claude Imbert, le lecteur, il allait au kiosque et il payait, il donnait des francs. Donc là, maintenant, si vous récupérez rien, je ne suis pas en train de vous en faire le reproche. Moi, je trouve absolument magnifique que vous travaillez comme ça, gratuitement, pour la beauté du geste et du journalisme.
Bah,
mais
il faut que vous trouviez vos... Nous, on est un journal. Et un journal, ça se décline en papier, en numérique. Et en numérique, nous avons du gratuit et nous avons du payant. Nous avons les deux.
Ouais.
Et l'engagement des gens en gratuit se traduit après par de l'abonnement. C'est comme ça qu'on fonctionne.
D'accord. Combien d'abonnés au Point ?
À peu près 200 000.
On va parler de l'avenir de la presse écrite avec vous, Étienne Jarnel. Vous bougez surtout pas.
Oui, dans Culture Média, on reste avec Étienne Jarnel, qui est le directeur de l'hebdomadaire Le Point. Et on revient dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Étienne Jarnel, le directeur du Point, est votre invité. Philippe Vandel, on a parlé du grand programme de podcast du Point et on parle à présent de l'avenir de la presse écrite.
Mais oui, je posais la question de manière abrupte, Étienne Jarnel. Est-ce que vous croyez encore à la presse écrite ? Dit comme ça, ça paraît terrible. Ou plutôt, est-ce que vous faites à l'idée que peu à peu, elle va disparaître à la manière des gens qui vendaient du charbon au 19e siècle et qui savaient que le pétrole arrivait et qu'un jour ce serait la fin ?
Certainement pas, elle ne va certainement pas disparaître. D'abord, l'écrit, il est aussi numérique.
Ouais.
Hein, et on n'a jamais autant lu de presse et d'informations de l'histoire de l'humanité. La question, c'est la monétisation. Et c'est ça qui est difficile, c'est de faire accepter que le journalisme, ça coûte cher et qu'il faut donc le payer.
Alors, ça dépend, parce que Le Monde, par exemple, a lancé un jeu sur mobile qui s'appelle Mémorable. Il a copié en cela le New York Times qui avait lancé un service payant de jeux, notamment des mots croisés. C'était une énorme ressource d'abonnement. Ça fait vivre les journaux, c'est pas tout à fait du journalisme.
Bah, ça fait partie de la vie des journaux. Écoutez, pendant très longtemps, on a eu au Point les mots croisés de Georges Perec, par exemple.
Ouais.
Et on continue à avoir des mots croisés. Ça fait partie de la vie, c'est pas gênant. Il y a eu dans les journaux pendant très longtemps des programmes télé, des tas de choses. La météo, vous savez, dans le numéro de l'Aurore qui contenait le fameux J'accuse de Zola, il y avait des agendas de réunions locales, il y avait de la publicité, des annonces immobilières, il y avait le prix de la farine et le marché aux chevaux. Donc rendre des services aux lecteurs, et les mots croisés, ça en fait partie, c'est du plaisir. Ça fait aussi partie du rôle des journaux. Mais il ne faut pas se tromper. La clé, quand même, c'est de produire une information de qualité. Et ça, ça coûte cher. Et donc, il faut convaincre les lecteurs, mais aussi nos camarades de Google, que la presse a une valeur.
On va parler de Google. Qu'est-ce que vous pensez de la tentative de relance de vos confrères de L'Express, qui consiste à supprimer des pages culture centrées sur le news, l'économie, en faire en gros un The Economist à la française ?
Écoutez, moi, je suis pour la concurrence. Nous, on a intérêt à avoir une concurrence. Le déclin de l'Express n'était pas du tout une bonne nouvelle pour nous. Moi, je leur souhaite tout le meilleur et la meilleure réussite du monde.
Mais le fait de supprimer des pages, est-ce que c'est le modèle économique qui peut rendre un titre viable ? Vous avez des projets vous-même de diversification au Point ?
Écoutez, les podcasts en est un exemple, les événements.
Ils ne sont pas monétisés, les podcasts.
Oui, mais enfin, ils apportent des lecteurs,
trafic,
ils apportent de l'intérêt et ils fidélisent à notre journalisme. Parce que ce qu'on vend, c'est du journalisme. Et puis, il y a les événements, par exemple, qu'on organise à Toulouse, à Montpellier, à Nice, et qui sont du journalisme en live.
Des conférences.
Où on apprend des choses qui sont à dominante scientifique chez nous, mais il peut y en avoir d'autres. Tout est possible. On a des hors-séries, des coéditions, voilà, des vidéos.
20 hors-séries par an. Il y a quelques temps, vous étiez opposé à l'idée de mettre Le Point dans les offres de kiosques électroniques. Finalement, vous y êtes venu. Pour quelle raison ?
On y est venu très partiellement et certainement pas dans le mode que voulait SFR à l'époque, qui reposait sur une entourloupe fiscale majeure et à laquelle, heureusement, il a été mis fin. Sur le fond, je préfère qu'on vende nos abonnements directement à nos lecteurs et qu'on ait un lien direct. Maintenant, il faut être pragmatique. Dans certaines conditions, c'est possible. Mais ce n'est pas une règle générale. Hein. On regardera au cas par cas à chaque fois et on se garde toujours la liberté de se retirer.
Sur quelle plateforme on trouve Le Point ? Sur SFR ?
Non, sur SFR, on ne trouve pas Le Point.
Sur e-press ?
Sur e-press et sur le kiosque. Pour l'instant, mais surtout, on trouve aussi sur Apple et bien évidemment sur lepoint.fr.
Étienne Jarnel, j'ai plein de réactions à solliciter auprès de vous. Vous avez entendu notre info média du jour. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe chez Mondadori, le départ des trois quarts des journalistes d'un groupe de presse ?
Écoutez, c'est tragique et surtout le signe de la paupérisation d'une bonne partie de la presse. Et cela signifie qu'il faut, encore une fois, défendre notre valeur, notamment face à Google, parce que tout ça, c'est quand même en partie, bon, c'est de la faute des éditeurs hein, qui n'ont pas su défendre leur valeur et qui ont mis trop de choses en gratuit sur Internet, mais en partie le résultat de la prédation de Google.
Alors justement, c'est votre édito de ce matin. Faut-il démanteler Google ? Édito au vitriol, le chapeau, je le cite, le moteur de recherche profite de son monopole pour piller les journaux. Il piétine la liberté de la presse et au passage, la France et l'Europe, rien que ça.
Ben oui, écoutez, les monopoles détruisent toujours de la valeur. Frédéric Bastiat, le grand penseur et économiste libéral, l'avait démontré. Les monopoles détruisent parce qu'ils usent de la force et à la fin, il ne reste plus rien. Ils se repaissent de la chair de leurs victimes, il ne reste plus rien. Et c'est ce qui se passe avec Google, qui est en situation de monopole sur le marché des moteurs de recherche et qui, en fait, prend toute la valeur. Il capte l'essentiel avec Facebook, Amazon, mais eux en premier, de la croissance de la publicité numérique. C'est un vrai, vrai sujet et l'Europe avait fait voter hein, une directive sur les droits d'auteur.
Les droits voisins.
Les droits voisins.
Qui ne sont pas tout à fait droits d'auteur. C'est le droit d'utiliser une partie d'un texte.
Voilà,
ça que s'appelle les droits voisins.
C'est un dérivé, ouais. On va dire. Et c'est une petite solution partielle dont je n'étais qu'un partisan modéré parce que je trouvais que c'était qu'une petite compensation de la prédation de Google. Mais malgré tout, c'était mieux que rien. La France l'a transposé en droit français en premier. Et que répond Google ? Allez vous faire voir. C'est ça qui répond. Ouais. Le coup de force, c'est la signature des monopoles. C'est quoi que vous disiez, on s'en fiche. Si vous ne voulez pas être référencé, vous ne serez pas référencé. C'est-à-dire, pile je gagne, face tu perds.
Et si vous voulez être référencé, c'est gratuitement. Ça veut dire qu'on vous accorde ce droit d'être référencé. Mais alors, je vais me faire l'avocat de Google qui n'est pas là pour répondre. Ils vous disent, nous, on envoie du trafic sur les sites des journaux, en l'occurrence pour vous, Le Point, et à eux de monétiser cette publicité.
Oui, mais enfin, la réalité des choses, c'est quand on est un monopole, ils ont la fenêtre, notre fenêtre sur le monde. Voilà. Donc, et eux, ils la monétisent. C'est-à-dire que tout le monde passe pour Google pour tout, parce qu'il y a tout derrière, parce qu'ils sont en situation de monopole, et c'est pour ça qu'ils prennent toute la publicité et tous les revenus. Donc cet argument est un argument bidon. Les gens de Google mentent. La réalité, c'est que s'ils scannent toute la presse et qu'ils référencent toute la presse, c'est que ça leur permet aussi de se poser en situation d'être la notre fenêtre sur le monde.
Vous avez vu que le Premier ministre hier a pris position contre Google et ce qui se passe en ce moment à la tribune de l'Assemblée nationale. Des réunions doivent être prévues, les partis doivent se revoir. Alors vous, Étienne Jarnel, vous êtes opposé à une réunion de conciliation et vous avez cité Churchill, ça m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit un conciliateur est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé. Il faut faire quoi alors ? Mettre un grand coup de pied dans la fourmilière ?
Le problème, c'est la concurrence. Le problème, ouais. C'est le droit de la concurrence. Ce que les États-Unis ont fait avec la Standard Oil en 1911 et avec AT&T en 1982, c'est-à-dire le démantèlement, c'est ce qui m'a mis un coup d'arrêt. C'est la seule chose qui arrête les monopoles.
Mais attendez, c'est pas la France qui va démanteler Google aux États-Unis, ni même l'Europe.
Écoutez, l'abus de position dominante figure dans le traité de Rome. Il figure dans les traités européens. La concurrence, c'est absolument fondamental. Et celui qui vous parle n'est pas un altermondialiste. Je ne suis pas Olivier Besancenot. Hein. Ouais. Je ne suis pas un opposant au capitalisme international par principe. Le problème, ce n'est pas là, c'est que le monopole opprime. Le monopole détruit de la valeur. Le problème de Google, c'est que c'est un monopole et qui aujourd'hui se comporte comme un prédateur.
Merci beaucoup Étienne Jarnel, directeur du Point. Je le rappelle, vous lancez une série de 8 podcasts natifs. On les trouve sur votre site lepoint.fr et sur toutes les plateformes, notamment Apple et bien d'autres. Culture Média, ça continue également sur europe1.fr. Vous pouvez nous voir en direct. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture. On va recevoir Bernard Werber qui publie chez Albin Michel Sa Majesté des Chats. Il sera également vendredi soir sur la scène du Grand Rex pour animer le Festival des Chats. Wow ! Et la féline Hélène Marino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, on va parler jeux vidéo et d'un duel qui revient à chaque rentrée, FIFA contre PES. Lequel des deux est le meilleur ? On aura la réponse de Clément Le Saffre et puis on va s'aérer l'esprit avec les deux expos du moment à ne pas rater, dont Backside Do à la mode au musée Bourdelle à Paris ou Europe 1. On s'en réjouit et partenaire, nous serons avec Louise Bernard.
On reste sur Europe 1.